bien passe parfois après d'autres aspirations qui sont, elles, moins louables. Alors évidemment, dans le cas où les autorités viendraient ordonner à un croyant de désobéir à Dieu, s'applique alors le principe d'Actes 5, verset 29, vous le savez, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et d'ailleurs, si une punition s'ensuivait, il faudrait alors l'accepter à cause du Seigneur. La notion de la soumission aux autorités n'implique pour autant pas de ne pas dénoncer leurs travers. Et c'est ce que l'on voit, par exemple, des prophètes de l'Ancien Testament qui s'en prennent aux bergers d'Israël, qui font n'importe quoi, qui s'enrichissent sur le dos du peuple, etc., etc. Mais notons que cette soumission est une soumission volontaire, une soumission de bon gré, une soumission qui reconnaît l'autorité qui vient de Dieu. Elle ne dépend donc pas de la compétence du magistrat, mais du fait que c'est Dieu qui l'a instituée. Elle implique donc, de ce point de vue-là, la prière. 1 Timothée 2:2, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect, autrement dit, l'évangile vécu. Et oui, car nous nous réunissons ce matin. On ne risque rien à se réunir le dimanche matin, ouvertement, à se garer même sur le parking du Lidl où tout le monde nous voit. On ne se dit pas qu'on va sortir et qu'on va se faire attraper par la police. Pourtant, dans beaucoup de pays, c'est le cas. Dans beaucoup de pays, ce qu'on fait là, on ne le ferait pas. Ou alors on irait le faire dans des caves, bien cachées, dans le secret, que personne ne le sache. On peut remercier le Dieu de nous avoir donné des autorités qui nous donnent cette liberté de lui rendre un culte librement. Et on peut prier pour que cela se perpétue et que ça ne se perde pas. Mais si cette soumission implique la prière, elle implique aussi quelque chose qu'on aime un peu moins, l'obéissance. C'est la partie active de la soumission qui, elle, est plutôt passive, parce qu'elle est la manifestation d'une allégeance supérieure, celle envers celui qui est au-dessus de tout, le Christ. Éphésiens 1, 21. La Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Une nouvelle fois, l'auteur de l'épître de Tite met en avant les œuvres bonnes. Vous commencez à en entendre parler. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'épître maintenant, comme un refrain. En fait, ça souligne là l'objectif fondamental de l'Épître, que tout chrétien vive l'Évangile afin de porter des œuvres bonnes. En fait, si je devais réunir l'Épître en une seule phrase, c'est comme ça que je la nommerais. Vivre l'Évangile pour porter le fruit d'œuvres bonnes. Puisque c'est le refrain que l'apôtre a voulu et qu'il répète régulièrement, et il n'a pas fini de le répéter, on va le voir. Mais et nous dans tout ça? Sommes-nous prêts à toute œuvre bonne? Sommes-nous généreux? Sommes-nous bons? Sommes-nous droits dans notre vie? Sommes-nous pleins de compassion pour recommander l'enseignement de la parole à tous ceux que nous côtoyons, chrétiens et non-chrétiens? On va un peu plus en parler quand on va voir le verset 8. Paul ici, vous le comprenez, en remet une couche. Ne pas dénigrer, mais plutôt être conciliant, c'est déjà des choses qu'on a vues. Être courtois, faire preuve d'amabilité. Et là, il y a une petite nuance importante envers tous les hommes. Pas seulement ceux qu'on aime bien, envers tous les hommes. Oh, combien la médisance est plus facile! Oh, combien sont grands les dégâts qu'elle cause! Mais être pacifique, être plein de douceur, voilà ce qui témoigne de l'Église dans la société. Car quelque part, si nous sommes comme le monde, avec quoi le salera-t-on ? Si on sale quelque chose qui n'a pas de goût avec autre chose qui n'a pas non plus de goût, qu'est-ce que ça va changer ? J'avais déjà prêché sur être le sel quelque temps. Oui, car c'est un témoignage de l'évangile vécu, nourri par le désir d'influencer nos contemporains pour le bien et pour leur bien. Pour le bien, quand on fait le bien, mais aussi pour leur bien, car c'est agréable quand quelqu'un est aimable avec nous, quand il est doux, quand il est gentil, quand il n'est pas médisant. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ça nous fait du bien, n'est-ce pas ? C'est ce que dit encore Paul en Philippiens 4:5. Faites-vous connaître, c'est-à-dire en tant que chrétien, par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Regardons maintenant le deuxième élément, et peut-être le plus important, l'œuvre de la grâce de Dieu pour nous. Lisons la suite, les versets 3 à 7. Et si vous avez été attentif la dernière fois, vous allez voir beaucoup de parallèles. Car il fut un temps où nous-mêmes nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu sur nous avec l'abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers, selon notre espérance, de la vie éternelle. Et on va s'arrêter là. Après avoir rappelé la grâce de Dieu et son impact sur nous, ses enfants, Paul nous rappelle notre cheminement pour le salut. Qui est-ce que nous étions ? Et les termes sont durs. Des insensés qui rejettent Dieu en ne le considérant pas à sa juste valeur. Des insensés vivant comme s'ils n'existaient pas, des insensés trop centrés sur eux-mêmes. Des êtres vivants dans la révolte contre Dieu, plaçant dans nos hautes considérations toutes sortes de choses, sauf la volonté même de celui qui nous a créés et qui nous a donné la vie. Des hommes égarés de Dieu, croyant être émancipés du souverain divin ou préférant se perdre en divinisant des créatures tout droit sorties de leur imagination. Je nomme ici par exemple les diverses mythologies. Mythologie égyptienne où on prend des corps humains et puis on leur greffe toutes sortes de têtes d'animaux. Tiens, un chacal, puis lui, ce sera Anubis. Une tête d'ibis, ce sera Thoth, etc., etc. Ce que, d'accord, d'abord plaint l'apôtre Paul dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, par exemple. Des êtres humains s'estimant libres en s'affranchissant, je mets des gros guillemets, des contraintes de Dieu. Oh, si je dois croire en Dieu, alors j'ai des contraintes pour ma vie. Autant ne pas y croire comme ça. Je suis libre. Mais étant en réalité totalement esclave, nous dit le texte, de toutes sortes de passions et de plaisirs. Une liberté mensongère. Accompagné de recherches continuelles de toutes sortes de plaisirs, qui ne seront d'ailleurs jamais satisfaits, car l'être humain en a jamais assez. Il en veut toujours plus. Une vie qui devient alors une course ponctuée de jalousie et de comparaison malsaine. Ah ouais, lui il a, moi j'ai pas. Alors je vais tout faire pour avoir, même si on passe par des chemins éthiquement ou moralement discutables. En fait, une vie enfermée dans le mensonge du péché, dont les conséquences sont pleinement palpables, concrètes. La méchanceté, l'envie, des êtres haïssables et haïssant autrui, nous dit encore le texte. En préparant ce message, je lisais un commentaire qui plaçait l'impact du péché sur tous les pans de ce qu'on vient de lire. Le péché obscurcit l'esprit. Pour ça que ce sont des insensés. Le péché pervertit le cœur et la volonté. C'est ce qui rend désobéissant et qui égare. Le péché attise les désirs de notre être charnel. Il crée la convoitise et la volupté. Le péché développe toutes les formes de l'égoïsme, la malice, l'envie et la haine. Alors peut-être me direz-vous, le tableau là il est sombre, hein. C'était pas si sombre que ça en fait. Oui c'était, voilà, mais bon là quand même c'est lourd. Et c'est un commentaire que j'ai souvent entendu quand je faisais à Rueil des préparations au baptême sur l'épître aux Romains, ou quand on lisait l'épître, le chapitre 1 et le chapitre 2, on disait, ouais là quand même... C'est pas, c'est plus sombre que ce que je suis. Sylvain Romeroski, mon professeur de doctrine à l'Institut de Nogent, disait « L'homme sait faire du bien, mais il ne sait pas faire le bien. » Alors, c'est quoi la différence? L'homme sait faire du bien de temps en temps. Il peut manifester une forme de compassion, être accueillant, faire du bien, aimable, donner aux pauvres, je ne sais ce que vous pouvez mettre derrière, oui, c'est vrai. Mais il ne sait pas faire le bien toute sa vie, le bien selon Dieu. Alors pourquoi selon Dieu? Parce qu'en fait ici peut se poser la question de qui définit le bien du mal? Qui le définit? Alors on peut penser en tant qu'être humain à des sages, un peu âgés, qui ont vécu, qui ont eu leurs expériences, et qui en ont déduit que ça c'est bien et ça c'est mal. Oui, sauf que d'une culture à l'autre, ces notions-là, elles évoluent. Ah oui, dans certaines cultures, si vous ne faites pas ceci, c'est mal. Mais dans d'autres, si vous le faites, c'est mal. Et donc du coup, les choses évoluent d'une culture à une autre. Donc la question se repose. Qui peut définir le bien du mal? Ça ne peut pas être un homme. Pourquoi? Parce que, nous venons de le lire, l'homme est corrompu par le péché, c'est-à-dire tout son être est corrompu, son intelligence compris, sa sagesse compris, son discernement compris. C'est-à-dire que la conception du bien du mal qu'il a est corrompue par le péché. Elle ne peut pas être nette, juste et parfaite. Donc il faut que ce soit une entité supérieure. Quelqu'un qui ne soit pas impacté par le péché pour définir ce qui est bien de ce qui est mal. Et cette personne ne peut être autre que Dieu lui-même. C'est lui qui définit, selon les critères justes qui sont les siens, ce qui est bon de ce qui est mal. Et donc c'est pour ça qu'il est le juste juge, et que c'est pour ça que la description qui nous est donnée est juste, même si elle nous gêne, même si elle nous met mal à l'aise. Elle, c'est elle qui est juste, pas la conception que nous en avons. Car voici ce que nous étions. Souvenons-nous de notre manière d'être, de vivre avant de nous tourner vers Dieu. Est-ce que vous rembobinez le fil de votre vie et vous regardez comment j'étais avant ma conversion? Paul écrit en Romains 8 que rien que d'y penser, on pense à des choses qui nous font rougir de honte. C'est vrai. Alors la question ici est difficile. Avez-vous changé? Y a-t-il une différence entre votre vous d'avant et votre vous d'aujourd'hui? Est-ce que vous vivez l'Évangile? Dans ce sombre rappel du verset 3, jaillit le « mais » du verset 4. Et ça, ce « mais », il fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il introduit l'intervention de Dieu pour ne pas nous laisser dans cette situation, l'intervention de Dieu pour nous sauver. Tout ici complète le tableau de la prédication précédente sur Tite. La grâce de Dieu, vous vous souvenez? Dieu est de nouveau présenté ici avec le titre de Sauveur. C'est le titre qui est donné à Jésus-Christ au chapitre 2, verset 13, si vous tournez la page de votre Bible. S'ajoute donc à la grâce révélée que nous avions vue, la bonté de Dieu et son amour pour les hommes qui aboutissent à nous sauver. Tout cela nous manifeste Qui est le Dieu que nous suivons et que nous servons? Ça nous donne l'identité, ses attributs. Notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui fait grâce à des hommes dont le portrait sombre vient d'être dressé. Des hommes qui ne peuvent tirer aucun mérite de leur salut. Et oui, tu n'es pas sauvé parce que tu as été plus gentil que les autres. Tu n'es pas sauvé parce que tu as été un peu meilleur. Tu n'es pas sauvé parce que tu as accompli des actes conformes à ce qui est juste et qui auraient alors attiré sur toi le regard de Dieu. Ah lui, c'est pas mal ce qu'il fait. Alors lui, je vais le sauver. D'ailleurs, le Seigneur avait déjà donné sa vie pour nous sauver alors qu'aucun de nous ici n'était né. Alors, on me rétorque souvent l'argument de l'omniscience de Dieu. Oui, c'est vrai, mais Dieu savait comment on allait se comporter. Et donc, puisqu'il savait, alors il nous sauve. Sauf que cet argument-là n'a absolument aucun appui biblique. Vous ne trouverez rien dans l'Écriture qui dit ça, qui appuie ce fait. Pas l'omniscience, hein. Dieu est omniscient. Mais qui dit que c'est parce que Dieu savait comment on allait se comporter que du coup, il nous a fait grâce. Non, pas du tout. La raison de notre salut est donnée dans le texte. Il a eu compassion de nous et c'est tout. Ce n'est que la compassion que Dieu a eue pour nous. L'homme ne peut ni gagner ni mériter son salut. L'homme ne peut ni gagner ni mériter son salut. Dieu nous a sauvés de la colère de Dieu. Ça, c'est un fait. On dit souvent, il nous a sauvés de la mort, mais la mort n'est que la conséquence de la colère de Dieu. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu, qui était la juste récompense de notre péché. Il nous a sauvés en couvrant toutes nos fautes passées, nos fautes présentes et nos fautes futures par son sang, c'est-à-dire par sa mort, et on l'a commémoré ce matin en prenant la scène ensemble. Notre salut est entièrement, totalement, pleinement l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun mérite de notre part. C'est pour ça qu'en Romains 3, Paul dit « L'homme a-t-il des raisons de se vanter ? » Il n'en a aucune, aucune. Ce ne sont pas des braves gens qui vont au ciel. Ce sont des pécheurs qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Ni plus ni moins. Les bonnes œuvres ne nous gagnent pas le salut, je le redis encore pour que ce soit bien clair, mais elles sont le résultat du salut. Alors comprenons bien ici, le bain purificateur dont il est question de la nouvelle naissance n'est pas le baptême d'eau. Hein. Ce n'est pas le baptême d'eau dont il est question du bain purificateur. Non, le bain purificateur, c'est ce qui évoque la purification de notre être intérieur. C'est ce que dit notamment Jésus à Nicodème. L'homme doit naître d'eau et d'esprit, tiré tout droit de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25-27, où le Seigneur, par la bouche de son prophète, annonce la nouvelle alliance et il dit ceci : « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre ça veut dire imperméable à la parole de Dieu, et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire perméable à la parole de Dieu. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. C'est la nouvelle naissance, par l'action du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. En recevant la vie nouvelle, nous devenons de nouvelles créatures avec de nouvelles pensées, de nouveaux désirs, de nouvelles habitudes. La nouvelle naissance est une œuvre trinitaire, comme le montre le verset 6. Je change de slide, désolé, j'espère que la photo a été prise. Le verset 6 que je relis. Cet esprit, donc l'esprit de Dieu, Il, donc c'est Dieu le Père, l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est un verset trinitaire où on a les trois personnes dans le même verset. L'œuvre salvatrice accomplie par le Fils de Dieu par grâce modifie alors notre statut devant Dieu. Car nous avons un statut légal devant Dieu. Il n'y en a que deux possibles. Soit tu es condamné, soit tu es justifié. L'œuvre du Seigneur modifie notre statut devant Dieu. Il passe d'être condamné à justifié. Justifié, ça veut dire déclaré juste devant Dieu. Et donc, ce changement de statut va impacter le jugement dernier. Il y a une différence, aller au jugement dernier avec le statut de condamné et y aller avec le statut de justifié. Et c'est ça qui nous donne la vie éternelle. En conséquence, ce changement de statut implique la vie éternelle, mais aussi l'héritage dont il est question dans le texte, c'est-à-dire la participation au royaume éternel à venir que Jésus établira sur la nouvelle terre lors de la résurrection. Ce nouvel exposé de l'Évangile, exposé doctrinal que nous venons de lire, nous invite à considérer les étapes de notre vie, là encore, passé, présent et futur. Mon passé, en regardant en arrière, nous pouvons considérer l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie et les changements qu'il a conduits. Ah, avant j'étais comme ça, mais maintenant, par la grâce de Dieu, je ne le suis plus. J'ai changé. Ça impacte aussi mon présent. Est-ce que je marche selon mes propres désirs ou est-ce que je vis selon l'Esprit ? C'est une question qui n'est pas facile, ça. Deuxième question liée au présent, est-ce que je suis reconnaissant pour son œuvre ? Pourquoi tu es venu ce matin ? Tu es venu rendre un culte ? Louer ? Prier ? Être reconnaissant pour ce que le Seigneur t'a sauvé ? Ou est-ce que tu es venu parce que c'est cool de revoir les copains et les copines ? C'est comme un bon club du dimanche matin, l'église. Ou est-ce que tu es venu à la rencontre de ton Seigneur pour lui manifester ta reconnaissance éternelle pour la personne qui l'a sauvé. Ça impacte aussi ton futur. Comment ton espérance future modèle ton identité ? Comment ton espérance, quand tu regardes la vie éternelle avec le Seigneur, comment ça modèle ta vie d'aujourd'hui ? C'est des questions que je laisse en suspens, je vous laisse méditer dessus. L'Évangile modifie aussi le regard que nous portons sur les autres. Car nous aussi, nous étions perdus. Vous vous souvenez, le verset 2 que nous avons lu juste avant. Ça doit nous conduire à l'humilité devant les autres. Je ne vaux pas mieux, j'étais pareil. Mais ça nous pousse aussi à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Car on a envie que ce qui nous a transformés, ce qui nous a changés, les autres le découvrent aussi. Et j'ajoute quand même que quand on donne l'Évangile, on ne le perd pas. Il n'y a pas de risque à le donner. L'Évangile se multiplie. Quand vous le donnez à quelqu'un, lui en bénéficie et vous, en plus, vous l'avez gardé. C'est beau, hein ? Si Dieu nous a manifesté sa compassion, alors manifestons la nôtre à l'égard de ceux que nous considérons comme des personnes peut-être peu agréable, voire comme des ennemis. Vous vous souvenez, hein ? Aimez vos ennemis. Celui-là, il fait mal, hein ? Il est dur, celui-là, hein ? Aimez vos ennemis. Le Seigneur l'a fait, hein ? Il nous a aimés, nous, ses ennemis, d'abord, avant de nous adopter et de devenir ses enfants. Nous le voyons, l'Évangile n'est pas seulement de la connaissance intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'Évangile intellectuellement. Mais c'est un instrument de notre régénération et le Saint-Esprit en est l'agent. Tout cela nous conduit à un objectif déjà bien affiché dans l'épître de Tite, accomplir des œuvres bonnes. Alors j'ai pris des images sportives, motivation quoi. On y va, accomplissons des œuvres bonnes que le Seigneur attend de nous. Et je vais lire pour ça le verset 8. C'est là une parole certaine. Donc c'est toujours Paul qui parle à Tite. Et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. On y revient, je vous avais dit les œuvres bonnes. Hein. C'est régulier, ça revient tout le temps. Paul conclut son exposé doctrinal en demandant de nouveau à Tite, l'art de la pédagogie, c'est la répétition, non seulement de les enseigner, enseigne-les bien. Et c'est ce qu'il disait déjà au chapitre 2, verset 1, puis au chapitre 2, verset 15. Il rebooste Tite dedans. Mais il lui demande en plus d'insister fortement dessus. Il m'est arrivé d'entendre dans mon ministère les remarques suivantes. Prêcher l'évangile, bon, c'est bon, on connaît maintenant. On n'apprend rien de nouveau. Donc, quelque part, c'est plus vraiment nécessaire. C'est acquis. Nous, on a besoin d'un peu plus de viande maintenant, d'un truc un peu plus solide. Je crois que c'est très dangereux de penser ça. Si c'était le cas, alors pourquoi cette demande d'insistance de Paul pour l'église de Crète? Alors, peut-être on est tenté de répondre, oui, mais il y a le contexte de ces églises-là. Elles en avaient plus besoin que les autres. Je ne le crois pas du tout. Toute l'église universelle a besoin d'être régulièrement confrontée à l'évangile de Christ. Et c'est d'ailleurs la mission principale des évangélistes. On croit souvent l'évangéliste, c'est celui qui va dans la rue, qui prêche l'évangile à ceux qui en ont besoin. Pas du tout. Un évangéliste dans l'Écriture, c'est celui qui annonce l'évangile à tous, y compris à l'Église qui le connaît déjà. L'évangile, on en a tous besoin régulièrement. Pourquoi ? Parce que l'évangile est le socle de l'Église. Sans l'évangile, ce qu'on fait là ce matin, ça ne sert à rien du tout. Le jour où nous n'aurons plus besoin d'insister fortement sur ces choses, c'est le jour où nous serons tous parvenus à la maturité spirituelle et que notre foi portera les fruits de l'Esprit et s'appliquera à accomplir des œuvres bonnes. Or, je crois orgueilleux de considérer être parvenu à cette étape de sanctification et de maturité spirituelle. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous en cheminement et que c'est le cheminement d'une vie entière. C'est pas, bon, je vais me concentrer 2-3 ans dessus et puis après c'est acquis pour toujours. C'est pas vrai, hein ? On en a régulièrement besoin. Le rappel est une notion très importante dans l'Écriture. Prenez par exemple les fêtes juives. C'est quoi leur rôle ? Les fêtes juives ont pour rôle que le peuple se rappelle tous les ans, au moment des fêtes, ce qu'il a vécu avec le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour lui. Tout à l'heure, Béa, il a parlé de Pâques. Si on n'a pas besoin de l'Évangile, alors pourquoi on va fêter Pâques ? Parce que Pâques est un rappel important dont on a besoin. Nous avons toujours besoin de l'Évangile. La Sainte Cène, pourquoi on la fait régulièrement ? On commémore, on se rappelle de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pour ça qu'on s'examine soi-même, pour regarder la personne que j'étais avant et la personne que je suis maintenant. Est-ce qu'elle honore le Seigneur ? Et si ce n'est pas le cas, je demande pardon au Seigneur avant de témoigner à tous que le Seigneur a conclu une alliance avec moi en me sauvant par son sang. De plus, l'Évangile est la source de notre reconnaissance. On en a parlé par rapport au culte. Du culte que nous lui rendons et de notre manière de vivre quotidienne. C'est la conclusion de Paul, celle qu'il fait ici. Ayant été sauvés si totalement par un salut si sublime, notre vie doit être digne d'une vocation si noble. C'est-à-dire avoir un comportement compatible avec la profession de foi que nous avons faite lorsque nous sommes faits baptiser. Dans quelle mesure l'Évangile impacte immédiatement ma vie ? Dans quelle mesure nous apprécions tout ce que Christ a fait pour nous, en faisant pour lui, à notre tour, ce qu'il désire ? Jacques est très cinglant. Hein ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en acte, elle est morte. Elle est morte. Sans les œuvres, la foi est morte. Et les œuvres sans la foi ne sont que des œuvres mortes. les deux vont de pair. L'apôtre ajoute une dernière chose. Non seulement c'est une bonne chose, mais c'est aussi utile aux hommes. Alors pourquoi il dit ça, c'est utile aux hommes d'avoir ces bonnes œuvres? Car c'est, là encore, je reprends les termes qui ont été dits précédemment, ce qui rend attrayant l'évangile auprès des autres. Ça fait du bien à ceux qui en bénéficient de cette bonne nouvelle. Elles permettent à ceux qui les constatent, ces bonnes œuvres, de prendre connaissance de l'œuvre du salut de Dieu et alors, peut-être, d'en bénéficier elles aussi. N'est-ce pas un souhait que nous portons tous ? En conclusion, pour nous, Paul nous rappelle ici toute l'importance de l'évangile de Jésus-Christ, encore une fois. Tant dans la compréhension de celui-ci, les dimensions de grâce, de bonté, de compassion envers les gens haïssables que nous étions, que dans la vie qui en découle. Alors je vous laisse avec cette question fondamentale. Ma vie est-elle agréable à Dieu ? Est-ce que ma vie est une offrande agréable que j'offre à celui qui m'a tout donné, qui m'a sauvé ? Je remets ce texte de Romains 12, très important. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen.